Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud. Comment déjà la porte? Oui, bonsoir à toutes et à tous.
J'ai pas eu le temps de changer encore.
Et ravi de vous retrouver pour cette cinquième saison. Était-il bon? Était-il mauvais? Chaque été, note Didier Méreuse dans La Croix. La même question se pose avant même que le Festival d'Avignon soit achevé. Sans figurer dans la liste des millésimes exceptionnels, ce 69e festival s'est montré d'une bonne tenue, estime le critique de La Croix, malgré un budget amputé et la perte de plusieurs lieux récupérés par la mairie. Certes, les déceptions n'ont pas manqué, mais les moments heureux ont été nombreux. Et Didier Méreuse de saluer notamment tous ces spectacles d'outre-hexagone, des propositions exprimant les réalités de chacun de ces pays qui ont permis de retrouver ce qui est la marque du festival par-delà le temps, un état du théâtre au présent. Didier Méreuse, il faut le dire, est le plus positif de vos confrères, avec peut-être aussi Marie-Josée Sirac, qui parle dans l'Humanité d'un festival avec des zigs et des zags, de beaux moments, quelques déceptions et ratages, c'est la loi du genre. Pour le reste, c'est beaucoup plus énervé, tel ce long article bilan du Monde, titré « Avignon 2015, la quadrature de Pi ». Pour Fabienne Darge, aussi riche en déceptions qu'en surprises heureuses, cette édition du festival est surtout marquée par l'échec des propositions de son directeur. Elle s'est ouverte le 4 juillet avec un chef-d'œuvre, comme on en voit rarement, l'adaptation par le maître polonais Christian Lupa de « Des arbres à abattre » de Thomas Bernhardt, et avec un désastre artistique, comme on en voit tout aussi rarement, le Roi Lear de Shakespeare par Olivier Py, le directeur du festival. Si la manifestation a laissé sur leur faim nombre de spectateurs, de critiques et de professionnels, sur le plan comptable, au moins rien à dire, le festival affiche un excellent taux de fréquentation de 93,05%. 156 076 entrées ont été délivrées, dont un peu plus de 43 000 entrées pour des manifestations gratuites. L'envoyé spécial du Monde à Avignon salue, certes, comme son confrère de La Croix, le désir réel d'Olivier Py et de son équipe de faire du festival une caisse de résonance de notre monde troublé et chaotique, et de redonner toute sa place aux politiques autant que faire se peut dans un festival de théâtre, là où les choses deviennent plus compliquées, regrette-t-elle, c'est que cette volonté d'ouvrir grand Avignon sur le monde a impliqué des choix qui, sur le plan artistique et intellectuel, ne sont pas toujours défendables, et de lister quantité de spectacles intéressants de par leurs matériaux, mais qui n'ont pas trouvé leur forme. Il ne s'agit pas de défendre ici, il n'en a jamais été question, un théâtre de pure forme, mais le contenu n'est rien s'il ne trouve pas les moyens de son expression, et c'est là que le bât a blessé dans cette édition qui a accumulé les déceptions. Fabienne Darge reconnaît toutefois que, bien sûr, ce festival a aussi offert son lot de réussites formidables et des découvertes quand même. Finalement, le bilan de ce festival ne serait pas si négatif si les deux spectacles signés par son directeur n'avaient pas été aussi consternants et si les trois propositions dans la cour d'honneur avaient tenu la route. Et oui, la cour d'honneur est, quoi qu'on en veuille, le cœur d'une édition, rappellent les contempteurs les plus féroces de cette édition, Armel Hélio et Étienne Sorin dans Le Figaro. La cour d'honneur, c'est dans ce lieu magique que le public veut aller en priorité. Elle rassemble, elle se doit d'être élitaire pour tous, comme le disait si bien Antoine Vitesse. Olivier Py et son équipe, qui ont pris soin d'augmenter partout le nombre des représentations de chaque production, devraient s'interroger et peut-être inscrire un spectacle de théâtre de plus dans cette cour aux 1800 spectateurs. L'édition 2015 a souffert d'un autre mal, dénoncé comme chaque année vieille marotte par le Figaro, la trop grande proportion de spectacles en langue très étrangère, qui induit à passer des heures à lire plus ou moins facilement de copieux surtitrages, opération qui empêche de voir, de goûter le jeu des acteurs. Les trissotins se pâment en louant la musique de la langue. Ils en ont eu pour leur compte 14 productions, soit pas loin de la moitié du festival. Ce n'est pas correct, estime le Figaro, d'inviter de grands étrangers et de les traiter aussi mal. Avignon, tant pis pour cette fois, pays grec évidemment, titrait donc le Figaro dans un jeu de mots digne de Libération, qui relève, Libération, sous la plume d'Andy Atkin et Hugues Le Tanneur, que si l'édition 2014 avait été fortement marquée par les revendications sectorielles des intermittents du spectacle, Avignon 2015 s'est déroulé dans un calme qui n'est peut-être pas le climat le plus propice à une manifestation qui réclame une plus grande porosité aux tumultes politiques et sociaux. Pourquoi ce calme? Eh bien à cause du climat, justement à cause de la chaleur dans le festival écrasé par le cagnard, salle climatisée prisé est devenu le principal argument de vente, a constaté Laurent Carpentier dans Le Monde. C'est étonnamment tranquille cette année, vous ne trouvez pas ? La phrase revenait sans cesse, jusque dans le IN. Pas de bousculade dans les queues, plus personne n'en avait l'énergie. On applaudissait à l'économie, on huait modestement. Chacun cherchait une ombre, dégoulinée de partout. Même dans la cour d'honneur, où les vents coulis peuvent d'ordinaire vous glacer le sang et un coup de mistral vous faucher un acteur, on espérait en vain le moindre frémissement d'air. Jusque tard dans la nuit, la bouteille d'eau minérale comme kit de survie. Avignon, le spectacle n'était plus dans la rue, il était au ciel. Il était aussi dans les recoins de la scène, hanté par une âme bienveillante, une chatte, baptisée Pamplemousse, révèle Libération, qui apparaît souvent à des moments clés des représentations données dans la cour d'honneur. Son apparition a fait dire à certains que Pamplemousse était le fantôme de Jean Villard, en particulier à Denis Podalydès en 2013, qui leva soudain les yeux de sa lecture au frémissement de la salle. La demoiselle tigrée traversait gracieusement le plateau sans l'ombre d'une gêne, s'arrêtant même pour le regarder. Elle était aussi sur scène pour la première du Roi Lear d'Olivier Py. Comment se nourrit-elle ? Mystère. Nul doute, conclut Libération, que l'atmosphère des lieux, chargée d'une histoire sanglante et trébuchante, mariée à des décennies de théâtre vivant et propice aux apparitions, c'est toujours mieux que les déceptions, vous me direz.